Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes plus spirituels, meilleurs, plus intelligents, excellents ou quoi que ce soit. C'est simplement que Dieu a fait grâce. Et nous voulons, et vous, et pour nous, que nous puissions profiter de cette grâce au maximum. Depuis un certain temps, nous sommes en train de faire une toute petite étude sur le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous prions pour que nous dédions ces 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force, merci pour la santé, merci pour le salut. Merci pour ces hommes et ces femmes qui écoutent cette émission en ce moment, que ce soit à la radio, sur Internet ou dans un support informatique. Nous te bénissons, nous te remercions pour cela. Nous voulons te remettre ces 30 minutes entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu parles à chacun d'entre nous. Nous sommes en train d'étudier le Fils aîné, Seigneur. Nous ne voulons pas nous comporter comme le Fils aîné. Nous voulons être comme Jésus-Christ. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que nous puissions nous conformer à Jésus-Christ, à l'image de ton Fils bien-aimé, nous devons t'écouter, afin que tu nous forges, que tu nous modèles. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le Fils aîné. Disons dans Luc 15, versets 29 à 30, 28 à 30. Luc 15, 28 à 30. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Le fils aîné. Nous avons dit que le fils aîné, dans les caractéristiques que nous retrouvons dans cette parabole par rapport au fils aîné, nous avons dit qu'il était trop tolérant, qu'il était étranger dans la réconciliation entre son frère cadet et son père. Nous avons dit qu'il lui manquait de l'amour. Nous avons dit qu'il manquait de bonnes informations. Il avait des informations de la part des serviteurs et non du père directement. Et nous avons commencé à étudier que le fils aîné manquait d'amour envers son frère, ce qui ne l'a jamais stimulé à aller récupérer son frère. Ce qui ne l'a jamais stimulé à être l'objet de réconciliation entre le père et le fils cadet. Et nous sommes en train de voir maintenant comment, en d'autres termes, cet amour, ce manque d'amour se manifeste envers son frère. Au verset 30, le fils aîné dit ceci. Ton fils, il ne dit pas mon frère. Ton fils, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu fais une fête. Ton fils, il ne veut plus rien avoir avec le frère cadet. Si nous réfléchissons bien, à qui le fils cadet a fait du mal? C'est au père. C'était au père d'être dur, c'était au père d'être strict, d'être un homme de loi envers son frère, envers son fils cadet. Mais c'est le frère qui se comporte comme si c'était lui qu'on avait trans, comme si c'était lui qu'on avait, à qui on avait fait du mal. En fait, tout vient du fait que le frère aîné manque d'amour envers son frère cadet. Parce que même si le frère cadet, supposons que le frère aîné était en rébellion contre son père, ou c'était un hypocrite. S'il avait de l'amour envers son frère cadet, lorsque son frère cadet serait revenu, ça ne lui aurait pas posé de problème. Il aurait pu simplement être étonné et dire « Oh, papa, je ne comprends pas. On t'a fait du mal, mais quand même tu fais une fête pour lui. Explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il a réagi. Il réagit mal parce que son frère est de retour. En fait, il n'aime pas son frère. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas son frère? Parce que dans Romains 5, verset 5, il nous est dit, lisons-le, Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous voulons avoir de l'amour, ou si nous voulons aimer notre prochain, nous devons comprendre que l'amour pour notre prochain n'est pas quelque chose de naturel. Parce que si nous aimons notre prochain naturellement, cela veut dire que nous ne sommes pas à l'image de Christ. Qu'est-ce que je sous-entends? Si j'aime mon prochain avec de l'amour naturel, avec de l'amour adamique, ça veut dire qu'au fait, c'est pas Jésus-Christ qui vit en moi. Parce que l'amour de Dieu, qui nous aide à aimer les autres, l'amour qui nous aide à aimer les autres, n'est pas un amour qui vient naturellement. C'est un amour qui vient surnaturellement. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez en vous l'amour de Dieu. Il n'est pas biblique de prier, de dire « Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon prochain » si vous êtes un enfant de Dieu. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu aussi le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, Dieu a répandu dans le chrétien son amour. Ouais. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Parce que l'amour naturel a des préjugés. L'amour naturel fait du favoritisme. Ah, j'aime celui-ci parce qu'il m'aime. Je donne à celui-ci parce qu'il m'a donné. En d'autres termes, l'amour naturel a ses intérêts. Je fais ceci, je donne celui-ci. Je donne ceci parce qu'il est de ma famille, il est de ma tribu, il est de la même région que moi, il est de la même race que moi. Il vit un mode de vie qui est conforme à mon style de vie. C'est ça l'amour naturel. Mais l'amour surnaturel, c'est on aime celui qui n'est pas aimable. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Dieu nous a acceptés dans sa présence à cause de l'amour de Christ. Et même quand nous regardons notre marche chrétienne, beaucoup d'enfants de Dieu tombent encore dans le péché. Mais Dieu aime cette personne-là. Et mieux encore, Dieu aime le pécheur. Le Père, voyant le fils cadet revenir, ému de compassion, court vers lui. Le frère aîné, sachant, ne le voyant même pas, mais sachant que le frère cadet est dans la maison, il pète les plombs. Pourquoi il pète les plombs? Parce qu'il n'a pas d'amour pour son frère. Il n'a pas d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je suis même tenté de dire que ce frère aîné n'avait pas de l'amour pour lui-même. Dans Matthieu 7, verset 12, il est dit ceci, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi aux autres. En fait, c'est comme s'il disait que si lui s'était retrouvé à la place du fils cadet, son père n'aurait jamais dû l'accueillir après sa rébellion. Son père n'aurait pas dû l'aimer. Son père n'aurait pas dû faire une fête pour lui. Son père n'aurait pas dû lui donner une nouvelle bague, de nouvelles paires de chaussures, un nouveau vêtement qui est l'image de la justification. Son père n'aurait jamais dû avoir de la compassion pour lui si il devait se perdre. Donc, un tel type de comportement, je m'excuse, empêchera toujours les chrétiens d'aller gagner les perdus à Christ. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas comprendre que Dieu aime une telle personne. Alors que lui-même a bénéficié de l'amour de Dieu. Il dit, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter que Dieu aime des prostituées, que Dieu gagne, que Dieu convertisse des prostituées. Et du reste, vous allez souvent entendre, lorsque quelqu'un qui, entre guillemets, a mené une vie de désordre les plus poussés se convertit, vous allez toujours entendre certains chrétiens dire, est-ce que réellement il s'est donné à Dieu ? C'est arrivé aussi dans l'histoire de la vie de Paul, dans l'histoire de Paul. On soupçonnait Paul de ne pas s'être réellement converti. Écoutez, dans l'amour, il n'y a pas de soupçon. L'homosexuel qui se convertit à Christ, il y a toujours des petites blagues faites par des chrétiens derrière cette personne. Ah, attention, hein. C'est un ancien homosexuel, il fut homosexuel. Oui, il fut, il ne l'est plus. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, on ne reste pas seul avec lui dans une pièce. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des préjugés. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour les autres. Donc, vous ne voulez pas qu'on fasse des blagues derrière vous ? Ne faites pas des blagues derrière les autres. Vous voulez que les hommes vous prennent au sérieux dans votre conversion? Eh bien, prenez aussi les autres au sérieux dans leur conversion. Vous auriez voulu que Dieu vous pardonne quand vous commettez des erreurs? Eh bien, pourquoi vous ne voulez pas que Dieu pardonne les autres? Le fils aîné ne supportait pas ça. Pourquoi il ne supportait pas ça? Parce que il n'aimait pas son frère. Ceci nous ramène à Marc 12, verset 31. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là, que c'est dans ces deux commandements que se regroupent tous les autres commandements. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Comme il n'aime pas son frère, le fils aîné n'a jamais fait la volonté de son père. Il le dit. J'ai toujours fait ta volonté. Luc 15, 29. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je n'ai jamais désobéi à ta parole. Or, Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'aimes pas, vous n'aimez pas votre prochain, vous transgressez la parole de Dieu. La priorité pour Dieu n'est pas votre entreprise, la priorité pour Dieu n'est pas votre mariage, le nombre d'enfants que vous voulez avoir, votre promotion au travail, même votre ministère. La priorité pour Dieu n'est pas les richesses que vous allez posséder de ce monde. La priorité pour Dieu n'est même pas votre état de santé. La priorité pour Dieu, d'abord, c'est de gagner à Christ tous les perdus. Tout le reste que Dieu vous donne, c'est en fonction de cela. La priorité pour Dieu pour le perdu est que le perdu revienne dans la maison. Une fois qu'il est revenu à la maison, eh bien, Dieu voudrait que ce perdu jouisse d'une vie heureuse. Que ce perdu soit heureux. Mais il reste toujours dans son cœur la priorité des autres perdus. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Nous sommes des missionnaires de Christ dans ce monde. Même si vous êtes une femme ménagère, vous êtes un cordonnier, vous êtes un charpentier, vous êtes un menuisier, vous êtes un chauffeur de taxi. Dieu veut que les perdus reviennent dans sa maison. Et Dieu ne va pas envoyer les anges. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Dieu va utiliser des hommes comme vous et moi. Dans le ministère ou pas, Dieu doit nous utiliser. Mais pour que nous ayons cette vocation, il faut que nous ayons, que nous comprenions les priorités de Dieu et que nous laissions l'amour de Dieu vivre pleinement en nous. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. En Jésus-Christ, nous devons avoir de nouvelles mentalités. Je ne dois pas aimer seulement ceux de ma tribu. Je ne dois pas seulement aimer ceux de ma race. Je ne dois pas aimer seulement ceux de ma province. Je ne dois pas seulement aimer ceux qui, entre guillemets, spirituellement, sommes de la même maison. Je ne dois pas aimer seulement ceux qui se prétendent être des chrétiens. Je dois aimer aussi les non-chrétiens. Peu importe leur religion, je dois les aimer. Et si je les aime, si je suis rempli de l'amour de Dieu et que je le vis pleinement, je laisse cet amour vivre pleinement en moi, je serai poussé de leur parler de l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que leur état de perdition me pousse ou me fait souffrir et je voudrais qu'ils viennent à Christ et que je passe l'éternité avec eux. Bien sûr, lorsque je vais leur parler de Jésus-Christ, je vais leur parler de Jésus-Christ avec amour. Sinon pas avec un style comme pour montrer vous êtes des païens, vous êtes des ivrognes, vous êtes des alcooliques, vous êtes des drogués, vous êtes des pécheurs. Non. Moi aussi, j'étais dans le péché. Moi aussi, j'étais perdu. Et c'est l'amour de Dieu qui m'a touché. Nous devons aussi aimer les autres. Rappelons-nous que le fils aîné est l'image de beaucoup de chrétiens. Le fils cadet est l'image de beaucoup d'hommes et de femmes qui sont perdus. Et Jésus-Christ nous enseigne. Lorsque vous relisez ces contextes des paraboles, il est parlé simplement de l'histoire, ou si je puis dire, de celui qui est perdu et qui est retrouvé, et pour qui on a fait une fête. Dans toute la Bible, je dis bien, dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il n'est jamais dit que Dieu a fait des fêtes au ciel lorsque Israël avait des victoires militaires, lorsque Israël faisait des conquêtes militaires dans les territoires que Dieu lui avait promis. Ça n'a jamais été dit. Nulle part, même pas un ange ne s'est réjoui de cela. Mais lorsqu'un perdu revient dans la maison de Dieu, lorsque quelqu'un se convertit, il nous est dit qu'il y a une fête au ciel. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui peut réjouir notre cœur, qui ne contredit en rien la Bible, je suis convaincu, réjouit aussi le cœur de Dieu. Mais il n'y a rien il n'y a rien qui fait faire une fête au ciel si ce n'est que la conversion d'un perdu. Celui qui était perdu et qui est revenu à la maison, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, sont les seuls passages où on dit qu'il y a une fête au ciel. Dieu, les anges, les archanges et toutes les créatures célestes qui servent Dieu se réjouissent, font une fête. C'est comme si les anges disaient « Oh mon Dieu, félicitations, un de tes enfants est revenu à la maison. » Et Dieu qui dit « Merci, merci, tout ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ. » Oh Jésus-Christ, tu es vraiment merveilleux. Tu sauves même les perdus, ceux qui vivent. Et Jésus dit, oui, oui. Et il y a des enfants que j'ai utilisés sur terre. Il n'y a que la conversion des perdus qui produit des fêtes au ciel. Moi, je veux que d'autres fêtes se fassent. S'il n'y a que ça qui produit des fêtes au ciel, c'est la mission prioritaire de l'Église, gagner des perdus. Gagner des perdus. Le frère aîné ne comprenait pas cela. Pour lui, faire la volonté de Dieu, c'est simplement aller travailler au champ. C'est ça la volonté de Dieu pour lui. Non, la volonté de Dieu n'est pas d'abord le champ. Le champ aussi fait partie de sa volonté, mais sa volonté d'abord, c'est les perdus. La volonté de Dieu dans notre vie n'est pas d'abord les bénéfices que nous pouvons en tirer, les bénéfices que nous pouvons tirer de notre travail, de notre mariage, de nos enfants, de notre commerce et même de notre ministère. Non. La priorité de Dieu d'abord dans nos vies, c'est que nous devons gagner des perdus. Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Il a dit à tout le monde, vous qui m'écoutez, bien sûr, je ne dis pas que nous allons tous devenir des pasteurs, bien sûr, je ne dis pas que nous allons tous devenir des prédicateurs, quand je dis prédicateurs, des évangélistes, des prophètes, mais nous pouvons témoigner Jésus-Christ autour de nous. Savez-vous combien de prisonniers n'ont pas la possibilité d'entendre l'évangile dans votre ville? Savez-vous combien de malades n'ont pas la possibilité d'entendre l'évangile dans votre ville? Des prostituées. Bon, je ne vous demande pas tous d'aller voir des prostituées. Mais quand même, si Dieu vous met à cœur de prier ou de témoigner Jésus-Christ autour des prostituées, prenez un frère, prenez une sœur, prenez, je ne sais pas, un groupe de personnes, allez les voir. Ils ont besoin d'entendre aussi l'Évangile. L'amour de Dieu doit nous pousser à cela, et non à nous mettre en colère dès qu'il y a un jeune converti que Dieu est en train d'utiliser. On commence à se poser des questions. Mais c'est quoi ça? Moi, ça fait tant d'années que je sers Dieu. Pourquoi je ne peux pas prier pour les malades? Pourquoi lorsque je prie pour les malades, je ne vois pas les malades guéris? Voilà autant d'années que je sers le Seigneur sans jamais avoir commis des actes d'impudicité. Mais cette petite fille ici qui vivait dans la débauche, elle s'est convertie il y a un mois et aujourd'hui elle est fiancée et demain matin elle va se marier. Non, non, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Naturellement, ça peut faire mal. Mais laissons surnaturellement l'amour de Dieu vivre en nous. Le manque d'amour empêchera les perdus de revenir à Dieu. J'essaie un peu d'imaginer, si le fils cadet, de retour à la maison, n'avait pas d'abord croisé le père, s'il avait croisé le fils aîné, qu'est-ce que le fils aîné lui aurait dit? Toi, tu oses revenir à la maison après tout ce que tu as fait? Après tout ce que tu as fait à notre père, après tout ce que tu as dit à notre père, tu oses revenir? Non mais attends là, mais c'est pas possible, je suis certainement en train de rêver. Mais tu crois que papa va t'accepter? Gloire soit rendue à Dieu de ce que le fils cadet, en retournant à la maison, n'a pas croisé le fils aîné. Mon frère, ma sœur, si un perdu venez à vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous serez le pont pour le ramener à Jésus-Christ? Ou vous serez fermé pour lui montrer que non, il n'a pas droit au salut de Jésus-Christ? Oh, ma prière est que lorsqu'un perdu me rencontre, moi, Raphaël, je voudrais que Dieu me fasse grâce de le faire connaître pleinement. L'amour de Jésus-Christ. Pleinement l'amour de Jésus-Christ. Au moment où nous sommes en train de finir cette émission, je voudrais vous poser une question. Je l'ai posée au courant de l'émission, mais je voudrais encore vous poser la question. Si un perdu vous croiser. Comment allez-vous réagir? Qu'allez-vous lui dire au nom de Jésus-Christ? Que c'est trop tard? Qu'il est perdu? Que Jésus-Christ ne peut pas pardonner ses péchés? Ou vous allez lui témoigner l'amour de Jésus-Christ? Je voudrais que nous prions pour chacun d'entre nous. Vous connaissez votre vie, vous connaissez votre état. Et si il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie par rapport à l'amour de Dieu, demandez simplement pardon à Dieu. Prions. Père éternel, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je voudrais te demander pardon. Pardon parce que je manque d'amour pour mon frère et ma sœur. Pardon parce que je déteste celui qui est perdu. J'ai des préjugés. Je te demande pardon. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie pour me purifier et me laver de cette haine. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Et donc j'ai l'amour de Dieu en moi. Je te demande de me donner la force, la possibilité, la capacité d'exprimer cet amour envers les perdus. Père, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et je suis convaincu que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a répondu. Si vous avez besoin de prières, de conseils, si vous avez besoin de réécouter ce message, si vous avez besoin de connaître les différentes heures de diffusion de l'émission « Venez à Jésus » sur votre radio préférée, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez aller sur notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Jésuspourtous.org. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine sur le même thème, le Fils aîné. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.